Amen. Comme disait le premier chant, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le Seigneur nous appelle en tant qu'individus sur la terre à chercher son royaume. Ça veut dire que c'est pas automatique. C'est pas automatique de le voir, son royaume. Premièrement, la Bible dit, si t'es pas né de nouveau, tu peux pas le voir, puis tu t'es pas entré dans le royaume. Si tu nais de nouveau, tu le vois, mais ça veut pas dire que tu vois l'ensemble de tout ce qui fait partie du royaume. Tu peux rester à faire du surplace parce que tu sais pas que dans le royaume, il y a quelque chose de plus que juste de savoir qui est là. Il y a une implication, un appel à s'impliquer dans chaque membre qui fait partie de ce royaume. On est en train justement d'étudier le royaume de Dieu, puis là-dedans, en évoluant dans l'étude, on va approfondir cette idée-là, que c'est premièrement que c'est un mystère pour les hommes. Ils connaissent pas ça, il n'y a aucune position géographique pour désigner il est où le royaume de Dieu. Parce que c'est pas une question de position géographique sur la terre. C'est pas un royaume qui est installé à quelque part encore. Un jour, oui, mais pas encore. C'est que là, on est dans le temps de la formation de ce royaume-là. Dieu est en train de recruter des gens pour faire partie de ce royaume-là. Puis on va voir dans l'étude un peu plus loin que c'était impossible pour nous d'y entrer. Il fallait que tu rentres dans des critères bien précis pour faire partie de ce royaume-là. Bien, quand tu es rentré dedans, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en faisant partie de ce royaume-là. Parce que c'est juste ceux qui sont intégrés à ce royaume qui vont goûter l'ensemble des promesses de Dieu, surtout les promesses de la vie éternelle. Aujourd'hui, on est en train de regarder la partie que le mystère du royaume de Dieu, mais il est révélé aux hommes. Ça marche par révélation, ça marche par connaissance. Quand on parle de révélation, ça veut dire que, humainement parlant, on connaîtra rien du royaume. Personne ne saura rien du royaume, à moins que Dieu le révèle. C'est des révélations qui viennent de Dieu. Connaître Dieu, connaître sa pensée, connaître ce qu'il veut, tout ça, connaître ce qu'il a fait, connaître ce qui est invisible, tout ça, dans le royaume de Dieu, c'est impossible à l'humain de le savoir, à moins que Dieu l'ait révélé. Ça marche par révélation. Puis même quand tu es chrétien, ça peut faire 20 ans que tu es chrétien, puis tu peux encore comprendre des choses qui font partie du royaume de Dieu. On est dedans présentement, tous ceux qui sont nés de nouveau sommes dedans le royaume de Dieu. Ça se voit pas encore de manière visuelle. Un jour, Jésus va revenir, son royaume va l'accompagner. Oui, puis là, il va avoir un royaume éternel qui va s'installer. Mais là, en attendant, on est, comme je disais tantôt, on est dans le temps de la révélation que Dieu donne à chaque individu pour que ces gens-là puissent rentrer dedans. Puis si on est rentré dedans aujourd'hui, mais si on a une bénédiction qui est incroyable, on s'en rend pas compte aujourd'hui, peut-être on a des idées, mais gardons la foi dans les promesses de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Le royaume de Dieu, c'est un mystère pour l'homme, mais il a été révélé par Dieu. Puis il y a des affaires que ça a pris du temps avant de comprendre tout ce qu'il y en est de ce qu'on sait aujourd'hui. Nous autres, on est comme bénis d'être là à la fin des temps. On est bénis parce qu'on connaît tout ce que les révélations de Dieu sont écrites. Sont toutes écrites là-dedans, les révélations de Dieu. C'est pas les autres livres qui comptent, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu. C'est là-dedans qu'on apprend à connaître les choses du royaume. Tout est déjà révélé. On n'a pas le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit. On n'a pas le droit d'en rajouter ni d'en enlever. C'est ça la révélation. Puis il faut se baser dans la révélation. Jésus a dit dans Matthieu 13, 11, Jésus a répondu, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » On voit là qu'il y a des personnes qui sont désignées à comprendre ce qu'il y a là-dedans. C'est pas tout le monde sur la planète qui comprend ce qu'il y a là. Il nous a été donné, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Il est venu nous parler, puis aujourd'hui on est là, puis on le sait. On a la foi, on croit dans ce qui est écrit, puis on s'attache aux choses qui nous ont été laissées. C'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut marcher. On est dans révélation. Il nous a été donné, puis aux gens qui n'ont pas la foi, mais ils ne comprennent rien. Ils peuvent prendre des bouts, mais s'ils naissent pas de nouveau, ils peuvent pas, premièrement, le voir de leurs yeux comme s'ils vivent, puis ils ne pourront pas entrer dedans non plus s'ils naissent pas de nouveau. Ça, je vais en parler un peu plus tard dans l'étude. Mais à nous, merci Seigneur, on peut l'approfondir, cette révélation-là, cette connaissance-là du royaume. Parce que c'est un mystère, mais c'est plus un mystère d'un sens. Parce que on a appris beaucoup de choses sur le royaume, déjà. Fait qu'il reste des petits détails que Dieu nous fait approfondir. Des études de la Bible nous font approfondir les révélations du royaume. Mais on sait déjà l'essentiel. Comment y rentrer, comment on connaît déjà des promesses, on sait déjà où ce qu'on s'en va à cause de cela. Beaucoup de choses ont déjà été révélées. Ça nous a été donné. Jésus parlait en parabole aux gens, là, puis expliquait tout à ses disciples que ça dit. Parce que c'est ses disciples qui sont les choisis par Dieu, ceux qui ont la foi. C'est à eux que Dieu veut leur donner les révélations. Ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui croient, ils veulent pas croire, parce qu'il y en a ils savent que c'est là, mais ils veulent pas, parce qu'ils pensent qu'ils ont trop d'affaires à perdre, ils veulent pas s'engager, mais là, ils y rentreront pas. Cette valeur, puis ils n'auront pas les révélations, puis ils ne participeront pas aux promesses. Comment est-ce arrivé que Dieu a donné sa révélation? Mais là, il faut aller depuis le début de la création. Dieu a commencé à se révéler aux hommes. Depuis le début de la création que Dieu a commencé à se révéler aux hommes afin qu'on le connaisse. Parce que pour connaître c'est quoi en fait le royaume de Dieu, on en a parlé un peu. On a vu un peu que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui est créateur de toutes choses. C'est lui qui est l'auteur de toute cette création. C'est Dieu-là qui nous a créés, puis à qui le royaume de Dieu nous appartient. Il y a juste lui qui pouvait venir voir l'homme, puis commencer à y expliquer c'est quoi les détails que lui veut nous révéler. Puis depuis le début que Dieu se révèle aux hommes, Dieu a parlé à premièrement, tu regardes l'histoire de la création, là. Imaginez le scénario, là, il y avait qu'un seul humain sur la terre, là. On parle pas de quelqu'un qui a vécu avec une grosse famille, puis qui a vécu avec plein, au milieu d'un peuple, puis toute la quête. Il était le premier à vivre sur la terre, là. Premier homme, le seul. Il n'y a même pas de femme encore. Il y a, je sais pas à quel âge qu'il était rendu quand il a eu sa femme, mais il a vécu une période seul, puis ce gars-là, lui, il avait rien pour l'entourer, il avait pas de parents pour s'occuper de lui, pour commencer à y expliquer des affaires. Il n'y a pas d'école pour aller apprendre, il n'y a pas de formation scolaire, il n'y avait pas de rabbin ni d'église, il n'y avait rien, là. Il commençait à découvrir que la vie existait, puis il n'y a pas personne autour, puis tout ce qu'il y avait pour apprendre, c'est sa relation avec Dieu. Dieu venait le visiter, puis Dieu venait y parler. C'est de même que ça a commencé. C'est la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à cet homme-là. Il a enseigné des affaires à cet homme-là. Il a eu un bon contact pendant un bon bout, jusqu'à temps que Dieu lui fasse une compagne. Puis là, ils ont vécu ensemble encore avec ce que Dieu venait leur révéler, leur apporter comme révélation. Ils ont développé leur connaissance, leur raisonnement, ils ont appris de Dieu. Puis je pense que ça marche encore comme cela aujourd'hui. Tu vas apprendre. Approche-toi de Dieu, puis approche-toi de ceux qui connaissent, qui ont déjà appris de Dieu, puis on va grandir ensemble. Parce que Dieu, il va continuer à se révéler. Mais pour tout ça, pour dire que depuis le début, Dieu enseigne aux hommes. Il veut qu'on connaisse ce que Dieu aime, ce que Dieu aime pas. Il veut se révéler à chacun de nous. Puis après, quand il a fini avec Adam et Ève, ils ont eu leur histoire. Dieu s'est choisi des hommes à travers les temps. pour être les porteurs de ces révélations-là. Il y a des gens qui ont toutes gardé dans leur mémoire les paroles de Dieu, puis même des faits de ce qui s'était passé depuis Adam et Ève. Ils ont des faits, puis en plus, ils ont eu des paroles de Dieu qu'ils ont reçues avant, puis qui tout étaient gardées dans leur mémoire. Des gens qui étaient porteurs de la parole, puis il y en a d'autres qui recevaient d'autres révélations. Des gens qui étaient choisis par Dieu comme des prophètes. On regarde Abel qui était un des enfants d'Adam et Ève. La Bible a dit qu'il est appelé le juste. Lui, il avait reçu une grande révélation des préférences de Dieu. Dieu s'est révélé quand Caïn et Abel sont approchés de lui pour offrir des offrandes à Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu que les humains offrent des offrandes à Dieu. Puisque ce qu'ils ont présenté, il y en a un qui a présenté, il était cultivateur, puis il a donné de ses légumes au Seigneur. Puis l'autre, il était un berger, puis il gardait des moutons, il a donné une brebis au Seigneur. Il l'a offert en sacrifice. Puis là, Dieu s'est révélé à Abel, il a dit, moi, dorénavant, présentez-vous à moi avec des animaux comme cela, c'est ça que j'aime. Parce que Dieu, il avait un plan dans tout cela. Fait que dans sa révélation, il a donné aux hommes de comprendre qu'il fallait qu'ils s'approchent avec du sang. Ça faisait partie du plan à venir. Parce qu'on le sait, on l'a appris par la suite, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais il a fallu que Dieu le montre aux hommes quelle façon qu'il préférait. C'est sûr que dans l'histoire, on sait que l'autre était jaloux de son frère, puis il l'a tué. Mais c'était gardé par écrit, par ceux qui étaient porteurs de la parole. Puis Dieu, il a tout gardé cela pour qu'on l'ait par écrit 6 000 ans, quasiment 6 000 ans plus tard. Sa foi à Abel, ça a amené la révélation que le sang versé fait partie des enseignements pour le salut. Ça commençait là, la révélation. Dans Hébreux 11:4, ça nous dit, j'ai sauté un verset, j'aurais pu vous lire la Genèse 4:4 avant, qui dit qu'il y en a un qui avait offert de la graisse, puis l'autre de son troupeau, puis l'autre il avait offert les légumes, puis que Dieu préférait. Son regard était favorable sur Abel et son offrande. Dieu voulait démontrer qu'il préférait le sacrifice d'un animal plutôt que d'apporter des légumes. C'est sûr que ça n'en dit pas plus dans le texte. Mais il y en a des gens qui vont jusqu'à dire que les légumes représentent l'effort de l'homme puis que les animaux, ça représente un agneau qui est offert en sacrifice. Puis ça, oui, on peut en parler que Dieu agrée les sacrifices, puis il l'a établi plus tard dans la loi. Mais après ça, ça l'a amené d'autres révélations, parce que sa foi, dans Hébreux 11:4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Voyez-vous, le fait que Abel vive cette expérience-là, ça l'a parlé. Puis il parle encore, parce que 6 000 ans plus tard, on a encore son histoire décrite. C'est Dieu qui a voulu ça, pour qu'on comprenne la révélation, comment elle s'est faite tranquillement au travers les temps. C'est un mystère du reste du monde, mais pour eux, ils commençaient à comprendre ce que Dieu préférait. Puis ça l'a amené parallèle avec Jésus, ça, par la suite. Parce que dans Hébreux 12:24, il nous en parle que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez-vous, lui, Abel, ça l'a parlé au monde, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Mais le sang de Jésus, c'est l'offrande de l'agneau qui était offert en sacrifice. Ça parle encore plus. C'est comme si Dieu était en train de crier quelque chose, là. Le message du sang, il est important. Que le sang, c'est le sang du Messie qui était versé à la croix. C'est ça qui est le plan principal de la nouvelle alliance. Dieu veut qu'on le sache, mais ça n'a pas été su de même. Il a fallu que graduellement que les gens aient des révélations. Ensuite, dans l'histoire, on voit encore d'autres exemples de personnages choisis qui ont un impact dans la société. On parle de Noé. Noé a amené la révélation de la loi, de la foi qui obéit. Noé, lui, c'est ça. Lui, c'est la foi qui obéit. Parmi tout l'ensemble de l'humanité qui existait à cette période-là, hein, pendant tout l'ensemble, il y avait des millions de personnes sur la terre. Il y a juste lui et sa famille qui ont été sauvés de la planète. Le seul juste, parce qu'il obéissait. C'était pas qu'un gars qui savait des affaires sur Dieu. Il obéissait à Dieu. Quand Dieu lui a dit en plus, « Bâtis une arche parce que j'ai condamné la planète », il s'est mis à l'œuvre puis il a bâti l'arche. Je sais pas si vous le savez, de bâtir un bateau de 450 pieds de long, là, puis de 90 pieds de large, puis 45 pieds de haut, tu sais, à trois étages, décider de bâtir ça tout seul là, avec tes trois enfants. Il avait 600 ans quand il a commencé à bâtir. Il a cru, puis il annonçait aux autres qu'il était pour avoir une pluie, qu'il était pour inonder. Tout le monde devait rire de lui. Il n'avait jamais mouillé sur la terre dans cette période-là. Il a marché par la foi, puis regardez qu'est-ce que la Bible dit de Noé. À cause qu'il avait la foi qui obéit, ça lui a procuré la survie du déluge avec sa famille. Dans Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il était averti qu'il était pour mouiller, puis qu'il y aurait une inondation, puis tout le monde serait détruit. On voyait aucune preuve de cela. Mais vu qu'il était averti, il a mis sa foi en Dieu. Regardez. Puis là, il était saisi d'une crainte de respectueuse. Il respectait Dieu, puis il savait que quand Dieu y parle, c'était vraiment des choses qu'il avait compris, qui venaient de Dieu. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, puis devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voyez-vous, là, dans ce verset-là, ça le dit très bien. Il y avait la foi en ce Dieu-là, puis il se mettait à l'œuvre à obéir ce que Dieu lui demande, puis il a été l'héritier de la bénédiction qui découle de la foi, parce qu'il a obéi, pas parce que juste il savait. Ça fait une grosse différence, ça. Il s'est mis à l'œuvre, il a bâti l'arche, puis par elle, son arche, son œuvre, il a condamné le monde, parce qu'à la minute, l'arche était finie, puis les animaux sont rentrés, Dieu lui-même a fermé la porte, il a commencé à mouiller, il y a eu des inondations partout, puis toute la terre, la plus haute montagne de la terre, était couverte d'eau. Il n'y a pas un espace qui n'avait pas d'eau, sur toute la planète. Ça dit que l'eau tomba du ciel, puis même les sources de la terre se sont mises à jaillir. Puis là, il y a eu une inondation, il a mouillé pendant 40 jours, puis ça a pris un an avant que... Mais il y a eu toute une histoire autour de ça, mais le point est que Dieu s'est révélé dans cette image-là. La révélation de Dieu que la foi sans les œuvres est morte. Si tu n'es pas en train de vivre ta foi, tu es dans le champ. Bien ça, ça fait partie de la nouvelle alliance aussi, parce que tout le monde dit la foi sans les œuvres. Non, c'est pas la foi sans les œuvres, ça marche pas, parce que la foi, Jacques le dit, la foi sans les œuvres est morte. Puis t'es pas sauvé par tes œuvres. Faut premièrement que tu aies la foi en Dieu. Puis après ça, tu te mets à obéir à Dieu, pas à tes religions, pas à ce que tu as mis ta foi. Tu mets ta foi en Dieu, tu écoutes Dieu, tu marches avec Dieu dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu es dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce qu'il y en a qui ont mis leur foi dans une religion, ou ils ont mis leur foi dans leur capacité ou dans leurs bonnes œuvres, c'est sûr que là, tu es dans le champ. C'est pas les œuvres qui sauvent. Mais c'est la foi démontrée par tes œuvres. Comment tu vas la démontrer, ta foi, par tes œuvres? Mais tu vas mettre ta foi en Jésus-Christ, puis tu vas devenir un disciple de Jésus-Christ. Puis un disciple de Jésus-Christ, c'est tout un mode de vie. C'est pas juste une théorie que tu sais que tu as voté pour, là. C'est que tu t'engages à suivre Jésus. C'est ça, l'exemple de la révélation de Dieu. Dieu a donné, il a parlé aux hommes, puis ça nous est tout ramené dans la parole. Puis il y en a un autre bel exemple. Alors, j'ai pas fini avec Noé. Ça dit, il a été surnommé le prédicateur de justice. Dans 2 Pierre 2:5, ça dit que Dieu s'y a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Là, dans cela, tout à l'heure, j'ai dit que Abel, il parla par son offrande. Il a parlé. C'est comme si Dieu a parlé par son offrande. Mais Noé aussi, il est un prêcheur de justice. Un prédicateur de justice. Quelqu'un qui parle avec son témoignage. Son obéissance à le parler. Ça dit pas que Noé était sur le coin de la rue en train de parler puis distribuer des choses. C'est pas ça. Je dis pas qu'il faut pas faire ça. Mais Noé, il a vécu sa vie en obéissance, puis c'est ça qui parle. Les gens, ils ont vu Noé bâtir un arche où il n'y avait pas d'eau, pas de pluie, il n'y avait rien. Il l'a bâti par la foi, puis il était sauvé. Ça parle. Ça, c'est la révélation de Dieu qui parle. Puis c'est pour nous qui sommes arrivés dans les derniers temps. Parce que la révélation, elle a donné à l'ensemble de l'humanité par les hommes de Dieu qui ont exposé leur vie, leurs œuvres, leurs témoignages. Même à passer des pamphlets. Dieu, il veut qu'on répande sa parole. Alors regardez bien un autre personnage qui est important dans l'histoire de la révélation, Abraham. Dieu a parlé par Abraham. Abraham, lui, c'est le père, il est appelé le père de la foi. Dieu l'a béni, puis il l'a cité en exemple pour sa foi obéissante. Des fois, on pense, oh, il crut à Dieu. Ça lui fut imputé à justice. On s'arrête juste à cette phrase-là, puis on dit, oh, le salut est juste parce qu'on croit. Non, c'est pas ça du tout. Faut-il aller voir son exemple de vie pour voir c'est quoi sa vie de foi, démontrer aux autres pour dire qu'il y a vraiment la foi. Comment? Ça nous dit dans le passage, dans Genèse 26, le verset 4 et 5, Dieu parle à Abraham. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » Là, il est en train d'y donner des belles promesses. Là. « Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées. » Là, il est en train de dire, « Tu vas aller par la foi, là, sans savoir ce que je t'emmène. Tu vas aller fouler un terrain qui ne sera même pas à toi. Tu n'auras même pas de quoi poser à toi. Mais je vais tout donner ce pays-là à ta descendance. » Lui, Abraham, son nom, c'est Abraham. Qui veut dire père de, il était changé pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Il n'avait aucun enfant, sa femme était stérile. Mais Dieu, il a fait la promesse qu'il était pour avoir une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, puis en plus, il va lui donner le terrain. Fait qu'il marcha par la foi des promesses de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous dit que lui, il a reçu ça, là, on est au verset 5. Parce que Abraham avait obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voyez-vous, quand on dit que quelqu'un a la foi, c'est pas juste parce qu'il sait une chose, c'est parce qu'il obéit à l'ensemble de ce que Dieu dit. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui démontre qu'on a la foi. L'obéissance. Alors regardez encore, parce que souvent on dit, il a cru à Dieu. Ouais, mais comment est-ce qu'il a cru? C'est parce que, au verset 5, Abraham, il a obéi à ma voix. Tu démontres à Dieu que tu y crois quand tu obéis à ce qu'il te dit. Puis aussi, il n'y a pas juste à sa voix, ça dit, il obéit à ma voix, il a observé mes ordres. Quand Dieu dit, va à telle place, offrez ton fils en sacrifice, il était à telle place, puis il a offert son fils. Puis il obéissait aux commandements. Les 10 commandements, il n'était pas révélé. Puis la loi de Moïse, il n'était pas révélé. Il n'y avait aucune loi écrite comme que nous, on a aujourd'hui. Puis, dans ce temps-là, il connaissait quand même la volonté de Dieu. Parce que les révélations étaient déjà là. Noé lui-même connaissait à la révélation ce que Dieu aimait, ce que Dieu aimait pas. Il connaissait la différence entre les animaux impurs et les animaux purs. Ça, c'est des choses qui ont été révélées dans la loi de Moïse. Mais avant Noé, il connaissait déjà les lois de Dieu. Ça existait, c'était là. Lui, il savait dans son esprit, sans qu'il les ait nécessairement par écrit, puis il obéissait à ce que Dieu lui demandait. C'était des gens qui respectaient les autres, puis du monde, ils venaient d'une manière qu'on vit pas aujourd'hui. Ils saluaient, ils appelaient l'autre Seigneur, ils se mettaient à genoux devant l'autre par respect. C'était pas des gens qui s'envoyaient promener à tour de bras. Aujourd'hui, on est rendu de mince parce qu'on a la conscience de ce que Dieu aime est bien moins forte. C'est pour ça que Jésus est obligé d'enseigner d'aimer notre prochain. Mais dans ce temps-là, il aimait le prochain. C'est sûr qu'il ne se laissait peut-être pas piler ses pieds quand il y a eu des moments où il a fallu qu'il aille se battre, mais il était quand même respectueux de bien des choses que nous, aujourd'hui, on a perdu ce respect-là. Il y avait des révélations qui étaient là, que lui, il a vécues dans son exemple. Il a mis en pratique la parole, puis ça nous parle. Ça dit qu'Abraham, il a été mis en exemple, que comme ça nous dit qu'il est un modèle de foi à cause de sa vie qu'il a vécue. Dans Romains 4:16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit une grâce, parce que la foi est démontrée par les œuvres. Il dit, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, pour que tout le monde puisse avoir la possibilité d'être sauvé, non seulement à celles qui sous la loi, les Juifs, mais à celles qui ont la foi d'Abraham, notre père à tous. Dieu nous appelle à avoir la même foi qu'Abraham. Ça fait partie de la révélation de Dieu. On veut connaître le royaume, mais vouloir faire partie du royaume, il faut que tu aies les idées aussi du royaume. Puis tu regardes ces hommes-là qui ont vécu, sont des exemples, puis nous, on doit marcher sur les traces d'Abraham. C'est quoi qu'on va retenir de l'exemple d'Abraham dans la révélation? Mais si Dieu nous demande de faire de quoi, on le fait. Puis si Dieu nous montre quelque chose dans sa parole, on va obéir à sa loi, à ses commandements, on démontre notre foi. Amen. Ensuite, Dieu, dans sa révélation, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est choisi un peuple pour le représenter. Ça, c'est le peuple d'Israël, pour porter son nom. Parce que Dieu voulait continuer à donner la révélation du royaume. Ça prenait quelqu'un qui porte son nom, un peuple. Il a choisi le peuple d'Israël, qui est la descendance d'Abraham. Dans Actes 15, le verset 14, ça nous dit, c'est Simon nous a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Dieu a choisi parmi les nations un peuple qui porte son nom. C'était le peuple d'Israël. Ce peuple-là avait reçu comme les révélations depuis Adam et Ève. À Moïse, ils avaient mis par écrit. Puis là, toute l'histoire continue à se dérouler. Ils ont tout mis par écrit, ces livres-là, les rois, les chroniques, les prophètes qui ont venu. Le peuple d'Israël était choisi comme un peuple représentant les révélations du royaume de Dieu. Le peuple d'Israël avait été choisi pour porter son nom, puis porter aussi sa parole, pour être des représentants sur cette terre, choisis parmi toutes les nations. On voit encore comment est-ce que Dieu travaille pour répandre sa connaissance, parce qu'il veut que le mystère du royaume soit plus un mystère. Il veut recruter le plus possible, puis il s'est choisi le peuple d'Israël pour être ses représentants, afin de recruter d'autres personnes autour. Comme ça dit dans Actes 15, 14, que je viens de vous lire, il a jeté ses regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Puis ça, c'était le peuple juif qui était choisi pour porter le nom d'Israël, puis devait être les représentants du royaume de Dieu. Dieu avait choisi ce peuple-là pour être comme les sacrificateurs, les gens qui étaient là à se présenter devant Dieu pour intercéder, à offrir les offrandes à Dieu pour être pardonnés, puis à savoir aussi la morale d'une vie de représentant du royaume de Dieu. Il y avait des lois morales, puis des lois physiques, des lois civiles. Il y avait toutes sortes de lois que Dieu avait données dans sa loi, des lois pour le pardon des péchés puis les sacrifices. Il y avait les lois civiles puis il y avait des lois morales, un mode de vie à suivre en tant que représentant du royaume des cieux. Ça nous dit que Dieu a commencé à peupler son royaume avec le peuple d'Israël. Avant, il y en avait juste quelques-uns de temps en temps qui connaissaient Dieu et qui connaissaient ses révélations. Mais avec le peuple d'Israël, dans Exode 19:6, ça nous dit, Dieu a dit à ce peuple-là, « Vous serez pour moi un royaume. » On voit que Dieu s'était choisi le peuple d'Israël pour être son royaume. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu les avait appelés à cela. Il dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu les a appelés à être les représentants du royaume de Dieu. Puis il les appelait à être des sacrificateurs pour une nation sainte. Ont-ils tous obéi? Non. Même s'ils étaient choisis, étaient appelés, Dieu avait mis son nom sur eux, puis il avait donné le message à porter, il y avait les révélations là, jusqu'à là, puis Dieu s'en donne encore davantage de révélations parmi le peuple d'Israël, parce que les prophètes de Dieu ont parlé, puis ça nous dit qu'il était appelé pour être une nation sainte, puis souvent il abandonnait Dieu pour se tourner vers des faux dieux, puis ils n'ont pas pris soin de l'appel qu'ils avaient reçu. Ça a eu des conséquences, on va le voir tantôt. Ensuite, la révélation du royaume de Dieu, a été développée et approfondie par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, on a vu un peu un survol que Dieu s'était choisi des hommes, après il a choisi un peuple. Ils ont eu d'autres révélations, les prophètes, il y en a eu dans l'histoire de ce peuple-là, plein de prophètes qui ont annoncé des affaires. Là, on avait la révélation de l'ancienne alliance et des prophéties, même des choses à venir. Mais c'est annoncé là-dedans qu'il viendra un Messie. Puis ce Messie-là viendra pour apporter les vérités, pour nous conduire dans la vérité, nous montrer l'enseignement, mettre la lumière sur les choses, les vraies choses de Dieu. Dès son baptême, Jésus commença à annoncer le royaume de Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. On sait que c'est pas n'importe qui, Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné en forme humaine pour venir révéler le royaume. Ça dit dans Luc, le chapitre 8, le verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en village, de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là, les mystères du royaume de Dieu commençaient à disparaître. C'est plus des mystères, c'est des choses qu'on sait. Pourquoi qu'on les sait? Parce que Jésus est venu pour nous faire comprendre les révélations des gens dans l'Ancien Testament. On voit ça aujourd'hui, comme par 2000 ans plus tard de Jésus. On comprend tout comment ça se maintient, sa révélation à Dieu. Mais la révélation a commencé vraiment officiellement là, quand Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a mis en lumière les différents aspects, puis on a beaucoup à apprendre. Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui nous éclairent sur le royaume de Dieu. Là, il a commencé à prêcher puis à annoncer. Ce que les gens ne savaient pas, parce que la Bible a dit, quand le Messie est venu, il est venu comme une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas gros de monde sur la planète qui comprenait vraiment le royaume de Dieu et ce qu'il en était. Pourquoi? Mais Jésus, il va le dire dans le prochain verset, pourquoi que les gens n'ont pas vraiment cru? Parce que ceux qui étaient les porteurs de la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire le peuple juif, ils n'ont pas fait leur job comme il faut. Regardez bien dans le prochain verset. Jésus a annoncé dans ses discours sur le royaume de Dieu que les Juifs perdraient leur position dans le royaume pour la donner à d'autres qui en porteraient du fruit. On voit ça dans Matthieu 21, 43. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé puis sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Les représentants de Dieu, ce que Dieu avait choisi pour être les sacrificateurs de Dieu puis être une nation sainte, ceux qui étaient là pour porter le nom de Dieu puis porter les révélations de Dieu, Ils n'ont pas fait leur job, puis les gens sont restés dans les ténèbres autour. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne pour venir mettre la lumière, pour éclairer, pour montrer c'est quoi le problème. C'est ceux qui étaient là pour représenter le royaume. Puis ces gens-là se croyaient sauvés par défaut, en venant au monde tout seul de même, sans œuvre, sans foi démontrée par des œuvres. Puis ils ne croyaient même pas aux prophéties de ce qui était écrit dans leur parole qui était supposée de porter. Oui, ils ont permis qu'on ait la parole jusqu'à aujourd'hui, mais c'était pas juste ça. Ils voulaient que le monde, que le peuple juif la répande, cette parole-là, pour que tout le monde la prenne. Mais ils n'ont pas fait le job. L'ensemble de l'humanité restait dans les ténèbres. Puis Jésus est venu puis a dit, le royaume va vous être enlevé, puis il va être donné à d'autres qui ne faisaient pas partie de ce royaume-là. D'autres qui vont rentrer dedans, puis qui vont porter du fruit. C'est qui ces autres-là? C'est les païens. C'est nous. On a une grâce, une ouverture qui a été faite à partir du temps que Jésus est venu, de pouvoir rentrer dans ce royaume-là comme ça. Parce que tout est accompli, puis on peut rentrer pour être sauvé, puis faire partie de ce royaume-là. Mais pour en porter du fruit. Jésus a déclaré qu'il y aurait beaucoup de personnes venant de partout sur la terre qui seraient au souper dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas juste les Juifs choisis, parce qu'ils ont été rejetés, puis ça s'était donné le salut offert à toutes les nations, pour qu'on devienne une nation, le royaume de Dieu, qui porte du fruit pour Dieu. Dans Matthieu 8, le verset 11 et 12, Jésus a dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Mais que les fils du royaume, ceux qui étaient les descendants là, du royaume, le peuple d'Israël, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents. » Jésus l'avait dit aussi dans d'autres manières quand il a rencontré les chefs pharisiens. Il dit, on n'est pas des enfants illégitimes, on a Dieu pour père, puis on est tous des descendants, des fils d'Abraham. Jésus leur a dit, si vous auriez Dieu pour père, vous m'aimeriez, puis vous seriez des... Là, vous avez pour père le diable, puis vous l'accomplissez ses désirs. Leurs œuvres étaient des œuvres de méchanceté. Les œuvres du diable et non pas les œuvres de ceux de représentants du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été balayés. Il y en a quelques-uns qui ont été sauvés. Je ne dis pas que tous ont été balayés, mais une grande majorité de ceux qui étaient là, des fils du royaume, qui auraient dû faire partie de l'héritage, qui auraient dû être des témoins dans ce monde, sont plus là. Ils ont été enlevés. Ils étaient greffés à l'olivier frais, mais à cause de leur incrédulité, ils ont été arrachés. Puis nous, à cause de notre foi, on a été hantés pour faire partie de ceux qui font partie du royaume de Dieu. On a été greffés, puis on est devenus des membres, des héritiers. Ça, je disais tantôt, d'être reconnaissant de ce que Dieu nous a rendu capables d'avoir part. Parce que pour nous, c'était... Avant Jésus, c'était comme une impossibilité, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un moyen pour y rentrer. Puis on va le voir plus loin, que ça fait partie du seul moyen pour y rentrer dans son royaume, c'est de croire en Jésus. Fait qu'il y a des gens qui faisaient partie de l'appel, puis ils vont être jetés dehors parce qu'il y a des pleurs, des grincements de dents. Par contre, il va en avoir plusieurs qui vont venir de partout de sa planète, puis ils vont être à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. C'est nous, ça. Dieu a donné à l'Église, qui est son corps, le corps de Jésus, les clés du royaume de Dieu. Ça nous dit ça dans Matthieu 16, 19. Puis Paul l'a dit à Pierre, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » L'Église, ceux qui font partie du royaume de Dieu, c'est l'Église. Aujourd'hui, c'est appelé l'Église. Depuis le temps de Jésus, c'est appelé l'Église. Les gens sauvés. On a maintenant dans nos mains la possibilité d'ouvrir la porte et de barrer la porte aux gens qui nous entourent. Parce que si tu ne parles pas de Jésus, tu ne lui rouvres pas la porte. Ils ne peuvent pas savoir comment faire pour être sauvés si tu ne lui dis pas. Autant que les Juifs avaient été appelés à être les ceux qui portent le nom de Dieu, puis à être les représentants du royaume, bien maintenant, ça leur a été enlevé, puis c'est à nous que c'est confié, c'est à nous qu'on a cette responsabilité-là. Je vous parle d'évangélisation, de parler de Jésus. C'est de toutes les manières sont bonnes. C'est nous qui avons les clés d'ouvrir les portes pour qu'ils soient sauvés. Si on ne parle pas de Jésus, ils ne peuvent pas être sauvés. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Ça fait partie du mandat des porteurs de lumière, d'aller se mettre à parole. Tous les moyens sont bons. Le journal, les pamphlets, l'Internet, la radio. Tous les moyens sont bons, la télévision, pour répandre l'Évangile. Des églises ici, bien entendu. C'est la journée que les églises ne prêchent plus le royaume puis ne prêchent plus le salut, là, on a un grave problème. Mais je sais que ça existe, mais on veut parler de ce qui est écrit. On a les clés, frères et sœurs. C'est remis à l'Église. Ils ont ouvert les portes. Maintenant, là, croyez-les que vous avez une position importante dans le royaume. Puis c'est important que vous parliez de Jésus à ceux qui vous entourent. Sinon, si on ne parle pas jamais de Jésus, bon, on n'est pas mieux que les Juifs de ce temps-là. Puis si on ne vit pas le royaume non plus, dans le sens de mettre en pratique ce que Jésus dit, dans la sanctification, là, c'est un mode de vie saint. Il dit, il avait sauvé le peuple juif en disant, je veux faire d'eux autres un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ça veut dire une nation qui ne marche pas dans le péché. C'est ça que Dieu veut qu'on sorte du péché. Il dit, j'envoie dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Il ne nous a pas retirés du monde. Il nous envoie dans le monde, mais il dit, n'imitez pas le monde. Il y a des péchés qu'on ne doit pas faire. Les péchés, on ne doit pas les faire, mais il faut vivre dans ce monde, puis être la lumière par tout ce qu'on passe, en parlant de Jésus, comme qu'on peut. Dieu nous utilise pour ça, puis on porte du fruit, parce qu'il dit, je vais donner ce ministère-là à une nation qui en portera du fruit. Là, on a une responsabilité individuelle, puis on a une responsabilité en tant qu'Église de porter du fruit, parce qu'on est les représentants du royaume de Dieu. On doit porter ce fruit-là. Sanctification, c'est une section du fruit. Évangélisation, c'est une section du fruit aussi. J'entends pas gros d'amen. Alléluia. Le Seigneur a fait de l'Église un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est formé de Juifs puis de païens. Dans Apocalypse 1:6. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs de Dieu pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance et au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume. Avant, c'était le peuple juif qui était le royaume de sacrificateurs. Mais il les a enlevés, cela, puis il a donné ça à une nation qui fait partie de juifs et de païens pour être les sacrificateurs. Cette nation sainte, les appelée les saints, c'est nous. Les chrétiens, les gens nés de nouveau, on ne fait pas juste voir le royaume, on est rentré dedans. On vit le royaume. Ça se vit, puis ça se répand. On est là pour le répandre, pour l'annoncer. C'est notre premier mandat de vie. Jésus l'a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas juste un mandat de la rue Saint-Clément. Là. Moi, je reste à la rue Saint-Clément. C'est pas rien que c'est la rue Saint-Clément. Là. Aller par tout le monde, c'est tu peux faire le chemin de la Beauce aussi, tu peux faire l'autre rue. Tu peux aller dans Châteauguay, qui est l'autre ville à côté. Tu peux aller à Valleyfield. Par tout le monde. Si tous les chrétiens dans toutes les municipalités commenceraient par évangéliser les municipalités et les municipalités autour, toute la planète serait couverte. Toute la planète n'entendrait parler. Nous autres, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit. C'est ça. On est en train, établi ici, là, porter du fruit pour Dieu. Fait que notre mission, c'est notre territoire, ce que Dieu nous a établi. On a à répandre la bonne nouvelle, frères et sœurs, pour que les gens puissent être sauvés. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Sur ça, j'ai déjà prêché sur l'idée, c'est quoi un sacrificateur, dans un petit peu plus large que ce que je vous dis là. Mais un sacrificateur, c'est des gens qui sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Nous, on est là, sacrificateurs, ça présente les hommes à Dieu, puis ça présente Dieu aux hommes. C'est ça la mission, on est entre les deux. On veut que les gens soient sauvés, on veut que les gens soient guéris, délivrés, pardonnés, c'est sûr qu'il faut qu'ils soient pardonnés pour être sauvés. Puis on les amène à Dieu, puis là, ça fait des offrandes spirituelles à Dieu. Dieu, il nous utilise où ce que nous sommes pour sauver les gens qui nous entourent. Comprendre les divers aspects du royaume invisible, c'est une grâce de Dieu. Si on comprend, là on est en train de regarder un survol, il y a des choses que vous saviez déjà, mais ça met comme une vision plus large de notre mandat, comment Dieu s'est révélé, il a révélé son royaume à travers les siècles, à travers le peuple juif. Maintenant, c'est par l'Église qu'il révèle les mystères du royaume, puis il dit ça, là, c'est une grâce qu'on puisse être au courant de ces choses-là. Il n'y a même pas un centième de la population qui vient d'entendre ce que je viens de vous dire là. Même pas une personne sur 1000 a entendu ce que je viens de vous dire là. C'est à nous, comme j'ai dit au début, qui était donné le mystère. C'est ça que Jésus dit dans Marc 4, 11. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est à nous, ça nous est donné. On n'a pas nécessairement compris avant de venir à Jésus, mais quand on vient à Jésus, les choses se mettent en place dans nos pensées. On comprend. Puis là, on est capable d'en parler. Puis l'autre, quand il va mettre sa foi dans ce que tu dis, il va recevoir cette idée-là, il va donner sa vie à Jésus, puis lui aussi, les lumières vont se faire. C'est ceux qui vont au Christ ou qui vont au Messie qui peuvent recevoir ces révélations-là. C'est une grâce. Parce que si t'as pas ça, tu marches pas dans le royaume. Si t'as pas passé par Jésus, puis si t'es pas, et que t'as pas exploré ça pour comprendre, t'es-tu dedans? Pose-toi la question. Mais si tu le connais, Jésus, puis t'apprends les choses, c'est une bénédiction. Dieu t'a choisi pour que tu les comprennes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur nous dit de considérer les bénédictions que nous avons présentement, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, 17, il a dit à ses disciples, « Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, puis ils l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, puis ils l'ont pas entendu. » Les prophètes, comme dans l'Ancien Testament, ils ont eu quelques révélations de Dieu. Ils étaient des sauvés, eux autres marchaient par la foi. Il y avait une connexion. Il y avait certaines révélations, mais ils les ont mis par écrit. Mais ils ne comprenaient pas la profondeur puis ni l'accomplissement. Bien, nous, on a tout vu cela parce qu'on est à la fin. On est comme ses disciples à Jésus. On peut se réjouir d'avoir vu puis d'avoir connu. On a entendu puis on comprend. Ça, il faut se réjouir de ça, frères et sœurs, parce que on n'est pas favorisé, il y a un mot pour ça. Là. Quand une personne a cette, hein? C'est un avantage, mais on a été comme choisi, béni au bout là, de savoir tout cela. Puis Jésus nous dit de heureux, d'être heureux, soyez heureux, c'est quelque chose de bénissant. Réjouissez-vous de ce que vous possédez, ces révélations-là. Parce que ça nous garde dans la foi jusqu'à la fin. Puis je finis avec un dernier verset. Maintenant, c'est à l'Église de répandre le message qu'il existe un roi et un royaume éternel qui présentement recrute les gens de foi pour en faire partie. Dans Actes 28, les versets 30 et 31, ça nous dit que Paul, lui, on le voit par sa vie, là, qui est évangélisé tout le temps. Lui, dans sa fin de sa vie, il dit, il demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Son rôle, il le vivait. Tu parles de Jésus, puis tu prêches le royaume de Dieu. C'est ça la mission de tout chrétien. On est appelé à faire partie de ceux qui portent le nom du Seigneur, puis qui répandent sa lumière. Amen. Prions. Seigneur, je viens te remercier dans le nom de ton Fils Jésus pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous emmène à comprendre les mystères du royaume de Dieu, mais surtout qu'on est heureux de participer à ces choses-là. Merci de ton salut en Jésus. Merci de nous avoir pardonné, de nous avoir racheté, d'avoir fait de nous des ambassadeurs pour le royaume de Dieu, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Oui, Seigneur, on veut être ses porteurs de bonnes nouvelles partout où on passe. Guide-nous, conduis-nous. Merci de ce que tu vas faire dans la suite dans nos vies. Ça demande une bénédiction spéciale sur tout le monde, pour qu'on puisse être fortifié dans le Seigneur, puis aller de l'avant pour l'avancement, pour ton royaume, à chercher le royaume et la justice, puis qu'on porte du fruit pour ta gloire. Amen.